Saint-Joseph, le 5 février 85. Après vous avoir parlé du mystère de l'Eucharistie et avoir vécu ensemble le mystère du sacerdoce, je ne veux pas vous en parler ce soir, puisqu'il y a une série de premières messes, n'est-ce pas, qui oblige de regarder ensemble le sacerdoce. Et puis on en parle souvent, c'est du reste très bien, puisque c'est une des orientations, pour ne pas dire l'orientation essentielle de la communauté, de contempler le sacerdoce de Jésus, d'entrer de plus en plus dans cette... dans ce mystère qui est le mystère du cœur de Jésus, du cœur sacerdotal du Christ, et en même temps du cœur victimal, puisque le propre du sacerdoce du Christ est un sacerdoce d'amour. Ce n'est pas le sacerdoce lévitique qui est un sacerdoce au niveau de la vertu de religion, mais c'est un sacerdoce au niveau de l'amour. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Et donc c'est un sacerdoce qui a des exigences que seul le mystère de l'incarnation peut nous le dévoiler. Il s'enracine dans le mystère même de l'union hypostatique. Il est inséparable de ce mystère de l'union hypostatique. C'est du reste, je crois, pour ça que le prêtre peut agir in persona Christi. C'est à cause que ce sacerdoce s'enracine dans le mystère de l'union hypostatique. La personne de Jésus, c'est la personne du Fils bien-aimé. Et comme cette personne est divine, elle peut, j'allais dire, assumer, non pas selon l'ordre ontologique, mais selon l'ordre sacramentel, tous ceux auxquels Jésus donne, communique cette puissance, ce pouvoir instrumental du sacerdoce. C'est dans la lumière du mystère de l'union hypostatique que nous devons toujours regarder la grandeur du sacerdoce. C'est dans la lumière du mystère de l'union hypostatique que nous devons comprendre le sacerdoce royal, mystique de Marie, le sacerdoce royal, mystique de tous les chrétiens. C'est dans la lumière du mystère de l'union hypostatique. Et c'est dans la lumière du mystère de l'union hypostatique que nous devons comprendre le sacerdoce ministériel de ceux que Jésus a choisis pour être ses représentants, ses instruments au niveau du mystère de l'Eucharistie. Et dans l'ordre du sacrement, dans l'ordre sacramentel, on peut dire que le prêtre va être un nouveau Christ, c'est-à-dire va être le Christ pour tous ceux que la Providence met proche de lui dans le mystère de l'Eucharistie, dans le mystère de la pénitence. Agir in persona Christi, c'est tout de suite ce mystère de l'union hypostatique qui est présent et qui donne cette efficacité à l'action du prêtre. C'est pas lui qui a l'efficacité. C'est une vertu instrumentale, c'est capturer ça qui est tellement beau et tellement grand. Parce que ça fait comprendre que le prêtre est tout entier relatif. Vous voyez, c'est par là qu'on voit le lien entre la vie religieuse et le sacerdoce. C'est pour ça que tout prêtre doit avoir l'esprit de la vie religieuse. S'il veut vivre pleinement son sacerdoce. Tout prêtre n'est pas appelé à vivre la vie religieuse, c'est bien évident. Mais il doit vivre l'esprit de pauvreté, de virginité et d'obéissance. Pour que la vertu instrumentale que le Christ lui donne le jour de son ordination puisse s'exercer en toute liberté. Puisque je crois que c'est le propre d'une vertu instrumentale de connaître des virtualités très multiples. Et c'est très vrai que la fécondité du sacerdoce du prêtre connaît une très grande variété. Quand on regarde le curé d'Ars, quand on regarde les saints, et quand les saints qui ont été prêtres, et quand on regarde ceux qui sont moins saints, c'est-à-dire nous-mêmes, on voit que l'efficacité de la vertu instrumentale, la fécondité du sacerdoce est moindre, c'est sûr, à cause du repliement sur nous. Puisque le propre d'une vertu instrumentale, c'est justement d'être tout entier tourné vers celui qui est la cause principale. C'est de ne plus regarder que la cause principale. C'est d'être tellement saisi par le Christ qu'on n'a plus que le regard du Christ sur ceux qui sont proches de nous, sur ceux que le Christ met sur notre route. Le regard du Christ au point de vue de la connaissance et au point de vue de l'amour. Aimer les brebis du Christ comme le Christ les aime. Et considérer que tous ceux que nous rencontrons, ce sont les brebis de Jésus. Ce ne sont pas nos brebis. Mais le petit accaparement qui se fait instinctivement. C'est ça qui est terrible. Dès qu'on agit, on agit instinctivement en cause seconde, nous, hein, pour parler un langage théologique. Et alors, on accapare. On a son ministère. On a ses œuvres. On a son rayonnement. On a la fécondité de son apostolat. Je connaissais un très saint prêtre, je ne le nomme pas parce qu'il vit encore, là, vous voyez. Mais il me disait, très content, qu'il avait le nombre de filetés qui était le nombre des Ave Maria du rosaire. Il les avait comptés, il en avait 150 filetés, vous voyez. Alors chaque Ave Maria c'était pour une des filetés, ou filetés, tout court. Il y avait surtout des filetés, eux, vous voyez, c'est forcé, du reste, ordinairement c'est comme ça. Alors 150, c'est sa gloire. J'ai rien dit, mais on a envie de pleurer de temps en temps, dire mais non, c'est... Je comprends très bien que les fidèles aiment mieux tel ou tel prêtre, c'est normal, ça fait partie de la charité fraternelle, c'est normal qu'ils soient liés davantage, c'est tout le mystère de la paternité, hein, et tout le mystère de la filiation qui est quelque chose de très grand. Mais il faut que cette paternité, que cette filiation se vive dans la pauvreté. C'est l'œuvre du Christ, ce sont les brebis du Christ, ce ne sont pas nos brebis. Ce sont les brebis du Christ que nous essayons de faire paître. Faire paître les brebis de Jésus et les regarder de cette manière-là. Et en même temps s'y donner à fond. Comme si c'était nos brebis. Parce que Jésus nous les confie. Parce que Jésus d'une certaine manière, nous les donne. Mais dès que Jésus nous les donne, nous les remettons tout de suite dans le cœur de Jésus. Pour que ce soit Jésus qui agisse. Et que nous puissions agir alors avec la dimension du cœur de Jésus, avec le regard du cœur de Jésus. C'est si grand, la parabole du bon pasteur. Et c'est la parabole pour le prêtre. Il doit comprendre que c'est pour lui, parce que Jésus veut qu'il en vive de cette manière, qu'il connaisse les brebis du Christ, qu'il les aime, qu'il les porte sur ses épaules, qu'il accepte de porter pour chacune des brebis du Christ et qu'il les offre au Père. La grandeur du sacerdoce ne peut se comprendre que dans la lumière du mystère de l'union hypostatique. C'est toujours ce mystère que nous devons contempler. Le Verbe devenu chair. Et cette grâce de plénitude dans l'âme de Jésus qui fait que Jésus est tête et qu'il est prêtre. Responsable en face de Dieu de tous les hommes. De tous les pécheurs, responsable en face de Dieu. Le prêtre est responsable en face de Dieu, de toutes les brebis que Jésus lui confie, et de tous les hommes. De tous les hommes qui vivent de son temps. Il doit les porter toutes. Toutes ces brebis doivent les porter à Jésus et lui donner. Et c'est dans l'œuvre de l'Eucharistie, qu'il doit vivre d'une manière très unique le regard de Jésus, l'amour de Jésus à la scène. Quand Jésus a consacré pour la première fois, et le prêtre doit toujours consacrer pour la première fois avec Jésus, éternellement. C'est ce regard de Jésus sur Marie, sur Jean, sur Pierre, sur toute l'Église, sur tous les hommes. C'est pour eux qu'il veut se donner de cette manière. Il se donne lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il se donne lui-même. Et le prêtre doit entrer dans ce même mouvement d'amour pour se donner lui-même. Il faut beaucoup profiter quand le Seigneur permet qu'on assiste à des ordinations et qu'on puisse vivre ensuite les premières messes des nouveaux prêtres. Il faut en profiter beaucoup. Aussi bien ceux qui sont appelés et qui seront appelés à être prêtres selon le sacerdoce ministériel que ceux qui seront appelés à vivre le mystère de la compassion de Marie. Le mystère du sacerdoce royal, mystique, des fidèles. Il ne faut pas loucher, parce que quand il s'agit des biens de Dieu, on ne doit jamais loucher. On reçoit tout gratuitement. Et quand Dieu a des vues particulières sur nous, on les reçoit avec tout l'amour que Jésus met dans notre cœur, pour lui et pour tous ceux qu'il aime. Je voudrais entrer avec vous, parce que le Saint-Père nous le demande, dans ce mystère de la pénitence. Nous reverrons certains passages de l'encyclique du pape, de l'exhortation, puisque c'est plutôt une exhortation, de l'exhortation Parce qu'on l'a entendu au réfectoire, mais c'est peut-être pas toujours, hein, pour notre estomac, ce que nous assimilons le mieux. Alors, c'est quelquefois un petit peu plus difficile. Alors, c'est bon, parce que le Saint-Père, il tient beaucoup. Ça, c'est très visible. Il a eu un courage énorme de faire ça. Dans le contexte d'aujourd'hui, quand on écoute les échos qui rebondissent, on voit combien le Saint-Père a eu du courage. Et c'est important pour nous de comprendre que c'est dans cet axe-là que nous devons essayer d'être fidèles à l'Esprit Saint. Alors, comprenons d'abord, dans la sacramentalité, puisque c'est comme ça qu'on doit dire, hein, dans tout ce que représente l'ordre des sacrements, ce que représente ce sacrement particulier qui est la pénitence, qui est la réconciliation. Il faut dire les deux. Hein. Pénitence, réconciliation, réconciliation, pénitence. C'est un sacrement de rencontre personnelle, puisque c'est un sacrement de miséricorde. Et c'est vrai. Toute miséricorde se fait toujours personnellement. C'est le propre de la miséricorde. On ne fait pas une miséricorde universelle, vous voyez. Ça ne va pas. Il n'y a pas de miséricorde collective. La miséricorde demande toujours de regarder la personne et de relever une personne. C'est ça la miséricorde. Vous voyez comment le sacrement de pénitence va nous faire entrer dans la miséricorde du cœur de Jésus, dans la miséricorde du cœur du Fils bien-aimé, dans la miséricorde du cœur sacerdotal du Christ. Et tous les gestes de miséricorde du Christ sont présents dans ce sacrement de pénitence. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, c'est un des textes les plus extraordinaires pour exprimer la miséricorde de Jésus. Et nous voyons bien ce que représente cette attitude de Jésus face à la Samaritaine. Ça doit nous éclairer profondément sur l'attitude que nous devons avoir si nous exerçons le sacrement de pénitence. Jésus est fatigué. Parce que sans doute, quand on est fatigué, on est un peu plus réceptif. On peut rester plus longtemps assis. Oui. C'est pas pour rien. Et c'est vrai. On ne verrait pas Jésus parlant à la Samaritaine s'il n'est pas là, ayant tout son temps. D'une certaine manière, fatigué. Tout son temps pour chacun, vous voyez alors, ça fait une petite éternité, n'est-ce pas ? Ayant tout son temps, la miséricorde réclame ça, tout le temps est brûlé pour l'amour et pour la personne qui est là. Jésus est fatigué, il a accepté cette fatigue, et cette fatigue le met seul. Vous voyez bien, on voit bien tout de suite, hein, il faut qu'il soit seul avec la Samaritaine. On n'aurait pas très bien vu, là, une pénitence collective. Vous voyez ça? Ça aurait été un petit peu délicat, n'est-ce pas, de voir cette pauvre femme, Jésus disant en face de tous les apôtres, tous ses péchés. C'est pas très agréable. Et la Samaritaine se serait repliée sur elle-même, et elle n'aurait rien dit. Elle aurait compris que c'était pas le moment. Il fallait que Jésus soit seul. Que les apôtres soient pris par l'organisation. Et l'organisation des repas, même quand c'est très simple, ça prend du temps. On sait très bien l'organisation. Les apôtres sont pris par l'organisation. Et Jésus est seul. Et Jésus l'attend. C'est très important d'attendre. D'attendre le pauvre. D'attendre le misérable. Parce que quand on l'attend, il n'est jamais de trop. Tandis que quand on l'attend pas, il est toujours de trop. Et Jésus a cette attitude de celui qui attend. Il attend cette pauvre femme et il prend l'initiative. Alors je sais très bien que c'est assez délicat ça. Il ne faut pas prendre des initiatives intempestives et dire à tous ceux qui viennent nous voir, je dis ça pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui le seront plus tard, allez, mettez-vous à genoux et confessez-vous. C'est pas toujours à faire, de temps en temps, cette affaire. Parce que nous avons tous connu ce genre de prêtre. Et je ne sais pas si ça nous a aidé beaucoup à nous ouvrir, moi je ne sais pas. Moi j'avais plutôt la tendance d'éviter ça. J'avais dans tous les bons collèges, on a connu ça, n'est-ce pas ? On avait des billets de confession de ce temps. Alors on mettait un billet de confession, puis alors on rencontrait de temps en temps un prêtre qui avait une envie folle de confesser tout le collège. Je ne sais pas comment il aurait fait, mais il avait cette envie folle de coller. Alors, chaque fois qu'on passait devant lui, le paquet des billets de confession tombait. Alors, comme on était un peu poli, on se précipitait pour les ramasser. Et puis, quand on le mettait, il disait « Quand le vôtre sera là parmi ceux-ci » Alors, évidemment, vous comprenez que ça vous invite énormément de mettre un billet de confession avec le nom de ce confesseur. La discrétion. Vous voyez bien, il faut avoir cette discrétion merveilleuse que Jésus a. Lui, Jésus, peut interroger. Donne-moi à boire. Il ne dit pas, allez, maintenant, décharge tous tes péchés. Je les connais, tu sais, je sais bien ce que c'est. Tu es une pauvre femme. On connaît tout ce que toute ta vie. Je sais bien, c'est pour ça que tu es si fatigué, c'est pour ça que tu fredonnes cet air-là, c'est ainsi de suite. Non, pas du tout, donne-moi boire. Jésus se fait le mendiant. Il descend plus bas que cette femme. C'est extraordinaire. Et c'est par là qu'il est, dans cette attitude de discrétion. Je crois qu'on se met toujours plus bas que celui qui est faible. On est discret. On manque de discrétion quand on domine. C'est quand on exerce sa domination d'une manière ou d'une autre. Alors on manque de discrétion parce qu'on écrase. C'est écraser qui est toujours un manque de discrétion. La discrétion est là pour porter et permettre à l'autre de s'ouvrir et d'être capable de pouvoir parler. Quand on voit la différence, cette Samaritaine, je ne sais pas quel âge elle avait, mais quand même, 5 maris à la suite, ça avait quand même duré un certain temps, il y a des chances, entre deux. Et Jésus, en pleine force de l'âge, Jésus le seul qui aurait eu le droit de faire comprendre sa supériorité. Et Jésus n'a jamais fait comprendre sa supériorité. Il a toujours été serviteur. Et ici, mendiant, donne-moi à boire. Il demande. Et nous savons comment ce dialogue va se dérouler. C'est très curieux qu'en se mettant dans cette situation d'infériorité, Jésus peut affirmer avec plus de force le mystère qu'il vient apporter. Il ne diminue en rien la doctrine, c'est ça qui est merveilleux. Jésus ne diminue jamais en rien la doctrine, mais il se met tout proche. Donne-moi à boire. Et Jésus permet à cette femme de montrer sa misère. Et une fois que cette femme commence à montrer sa misère, Jésus va aller jusqu'au bout. C'est un très bon chirurgien, vous voyez. Hein, il va jusqu'au bout. Il faut tout enlever, hein, tout ce qui n'est pas net pour retrouver quelque chose de sain. Et le quelque chose de sain, c'est cette femme qui avait soif d'adorer. Ça, c'est merveilleux. La miséricorde qui aboutit à l'adoration. La miséricorde qui éduque et qui conduit à l'adoration. Et cette femme, spontanément, livre la première angoisse, la grande angoisse de sa jeunesse. Querelle liturgique. On devrait dire ça aux parents quand ils discutent devant leurs enfants de certaines querelles liturgiques, hein, icônes et compagnie, n'est-ce pas ? De faire comprendre que c'est peut-être ce qui blesse le plus l'âme de l'enfant. De discuter sur ce qui est l'absolu. L'absolu, c'est l'adoration. Parce que c'est le premier lien avec Dieu. Et de faire passer devant des formes extérieures. Adorer au temple ou adorer sur les hauts lieux. C'est des modalités liturgiques. Elles sont très importantes, ces modalités liturgiques. Je ne veux pas du tout les diminuer, croyez bien, c'est très important. Mais il y a quelque chose de plus important. C'est le mystère même de l'adoration. Le mystère de l'adoration en esprit, en vérité. Oui, Jésus révèle à cette femme, et c'est ça qui est si beau, ce qu'il y a de plus profond en elle et ce qu'il y a de plus vrai en elle. Tout ce qui est un peu corrompu, tout ce qui est quelque chose sur lequel on ne peut pas construire, on ne peut pas construire sur le mensonge, on ne peut pas construire sur quelque chose qui est une erreur. Tout ça tombe et on vient tout de suite au roc. Les adorateurs en esprit, en vérité. C'est cela que Jésus réclame. Je trouve que cet évangile, c'est pas le seul, hein, croyez bien. Parce que vous pouvez prendre aussi Jésus face à la femme adultère. C'est Jésus face à ces deux femmes. Toutes les deux, pécheresses. Mais l'évangile de la Samaritaine montre une pédagogie merveilleuse du Christ. La pédagogie de la miséricorde. Et la pédagogie de la miséricorde veut aller jusqu'au bout. Ça fait partie de la miséricorde. Jésus, face à la femme adultère, il éduque plus les pharisiens et les scribes. C'est eux qui l'éduquent. Et puis il pardonne à la femme. Un pardon absolu. Parce qu'elle a assez souffert, elle a été assez humiliée. Les autres se sont chargés de l'humilier, tandis que la Samaritaine, personne ne l'avait humiliée. Hein. Alors Jésus, lui, se charge de la remettre dans la vérité. C'est pour ça que dans chaque cas, vous voyez, c'est quand même très 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 particulier, le sacrement de la pénitence, le sacrement de la miséricorde et de la rencontre. C'est pas toujours le sacrement de l'humiliation. Il faut au contraire quelquefois faire l'inverse. Quand quelqu'un était tellement blessé, tellement humilié, le prêtre alors à ce moment-là doit être comme Jésus. Va, je ne te condamne pas. C'est la parole d'amour et de miséricorde. C'est tous les gestes de la miséricorde de Jésus qu'on devrait relever ici. Ce serait très beau, du reste, à travers les synoptiques et puis Saint Jean. Relever tous les gestes pour faire une théologie de la pénitence, pour faire une théologie de la réconciliation. C'est tous les gestes de la miséricorde de Jésus qu'il faut faire. Toutes les rencontres miséricordieuses. Chaque fois que Jésus est devant quelqu'un qui a blessé Dieu, qui a renié Dieu, qui l'a rejeté. La miséricorde, vous le savez bien, c'est une vertu typiquement chrétienne, pour ne pas dire c'est la vertu chrétienne par excellence, après les vertus théologales. C'est la vertu du cœur blessé de l'agneau. C'est la vertu du cœur sacerdotal de Jésus. et le prêtre doit être l'homme de la miséricorde par le sacrement de pénitence. Il doit être l'homme de la miséricorde et non pas premièrement l'homme de la justice. Ce serait très faux. C'est l'homme de la miséricorde. Et celui qui vient se confesser, celui qui vient demander pardon, celui qui vient se réconcilier, c'est celui qui vit dans la pauvreté. C'est celui qui reconnaît sa misère. Puisque la miséricorde, ça ne peut pas se faire seul, ça se fait toujours à deux. Jésus ne peut pas faire la miséricorde pleinement vis-à-vis de celui qui n'avoue pas. Il l'a fait momentanément. Puisqu'il y a le cas tout à fait extraordinaire, vous avez de cet infirme à la piscine de Bethsaida, c'est un homme. Alors Jésus sait qu'un homme, ça avoue difficilement ses fautes qu'une femme. C'est ordinairement comme ça. Alors, vis-à-vis de cet homme qui est infirme à la piscine de Bethsaida depuis 38 ans, quand Jésus lui demande « Veux-tu guérir ?», il répond rien. Il dit seulement ses infirmités. 38 ans au noviciat, vous auriez le droit d'être comme l'infirme à la piscine de Bethsaida. Pauvre père maître, j'ai 38 ans. Mais ça arrive de temps en temps qu'au bout d'un an, on est comme la firme à la fin du piscine de Bethsaida. Vous voyez bien ce que. On dit ah, voulez-vous regarder ma misère? Regardez ma misère, on ne voit plus que sa misère. Ce pauvre homme, il ne voit plus que sa misère. Il ne regarde que ça. Quand Jésus dit veux-tu guérir? Oh, regardez, 38 ans que je suis là. Alors, il voit que sa misère, il est replié sur lui-même entièrement. C'est pas drôle, du reste, d'être infirme à la piscine de Bethsaida. Il vaut mieux être infirme partout ailleurs, mais pas là. Parce que là, c'est très ennuyeux. Au moment de la course, hein, il est toujours battu. Et personne n'est suffisamment généreux, miséricordieux pour lui laisser sa place. S'il n'y en avait qu'un qui était guéri, celui qui descendait le premier. C'est pas drôle, une communauté comme ça. La communauté des pénitents à la porte du Père Maître. Vous voyez ? La communauté des pénitents, ceux qui attendent la miséricorde, qui attendent la descente à bien. On voit bien que c'est rude, cette communauté. C'est pas commode du tout. Le noviciat est un peu toujours comme ça. Toute la vie religieuse est un peu comme ça. Toute la vie religieuse, on est toujours un peu ceux qui attendent la miséricorde. Tu resterais beau d'attendre la miséricorde, mais il faut l'attendre avec amour et sans amertume, sans loucher sur le voisin, qui a l'air d'aller plus vite. Parce qu'il y en a qui ont l'air d'aller très très vite. Hein. Ils ont des... Puis alors d'autres, on a l'impression qu'ils tombent dans le bourbier chaque fois qu'ils font un pas de plus. Alors, on ne peut pas juger sur les apparences, mais c'est vrai qu'il y a une attitude de miséricorde, d'attente de la miséricorde. Et c'est suffisant pour Jésus. C'est suffisant que cet homme soit là pour qu'on le guérisse. Il ne dit rien, mais il attend. Il peut faire que ça, attendre. Il attend le passage de l'ange. Mais ça exprime déjà beaucoup, ça. C'est suffisant pour Jésus. C'est très beau, ça, vous voyez. Parce qu'alors on comprend combien Jésus aime ceux qui attendent la miséricorde. Le noviciat, la vie religieuse, ils attendent la miséricorde. C'est une façon très belle de définir la vie religieuse, hein, c'est d'attendre la miséricorde. On attend la miséricorde. Puis quelquefois on ne sait plus rien dire, tellement on l'a attendu et que c'est rude, alors on est replié. Et Jésus fait la miséricorde, il pardonne. Il guérit. Essayons d'entrer dans cette miséricorde du cœur de Jésus pour que nous comprenions mieux l'attitude que nous devons avoir pour vivre cette miséricorde. Puisque c'est toujours par rapport à Jésus et par rapport à sa miséricorde que nous devons comprendre l'attitude que nous devons avoir au point de vue théologique. Et puis c'est positif, tandis que le péché est négatif. Il faut prendre une attitude positive et donc il faut regarder la miséricorde du Christ. C'est la meilleure façon, je crois, du reste, de s'apercevoir de ses fautes. C'est de voir combien Jésus est bon pour nous. Combien Jésus est infiniment bon pour nous, infiniment miséricordieux. Il a toute la miséricorde du Père dans son cœur. Et c'est cette miséricorde qu'il nous donne, qu'il met dans le cœur du prêtre. Et c'est vrai, ça. Il met cette miséricorde dans le cœur du prêtre. Cette miséricorde, elle est infinie, puisqu'elle a la même taille que la plénitude de charité du cœur de Jésus. Et elle provient directement de cette charité. Et cette charité, elle s'enracine directement au mystère de l'union hypostatique. C'est le Fils bien-aimé qui fait miséricorde et qui pardonne. La miséricorde, ça consiste à connaître la misère de l'autre. Mais une connaissance amoureuse. On ne peut pas connaître la misère de quelqu'un par des statistiques. Toutes les statistiques des misères sont fausses. Toutes. Toujours. On m'a raconté, c'était au Togo, des statistiques par rapport à la lèpre. C'était tellement significatif. C'était le bon père Marcel qui disait ça. Parce qu'il avait comme ça, lui, c'était situé à un point très important, tout à fait retiré dans le Togo. Il avait énormément dans son dispensaire, il avait énormément de lépreux qui venaient. Puis un beau jour, l'administration a voulu prendre ça pour faire le test de toutes les misères qu'il y avait. Alors, ceux qui souffraient le plus ne sont jamais présentés. On ne va pas se présenter pour dire qu'on est malade. Hein. C'est impossible. Alors, pratiquement, on a fait des tests qui étaient entièrement faux. Pour moi, c'était très significatif. On ne fait pas de tests de misère. Parce que celui qui souffre vraiment, il le porte d'une manière silencieuse. C'est dans une connaissance personnelle qu'on connaît la misère d'un être. Ce n'est pas par mode de test. Il n'y a pas une connaissance scientifique, objective, de la misère. Et surtout des misères profondes, des misères spirituelles, des lassitudes, des tristesses, quand on n'en peut plus. Les profondes misères, ça ne peut se découvrir que dans un lien personnel et dans un grand amour. C'est à travers l'amour qu'on découvre le mal. C'est à travers l'amour qu'on découvre la misère. Ça ne se découvre pas autrement. Il faut une plénitude d'amour pour découvrir la misère et l'iniquité du monde. La misère d'un pécheur. La misère d'un criminel, la misère de quelqu'un qui est blessé au plus intime de lui. Il faut beaucoup d'amour. Parce que instinctivement, quand il y a une blessure, il y a le repliement. Tout le temps comme ça. Et alors on se tait. On ne dit pas. On n'a pas rencontré assez d'amour pour pouvoir dire sa misère. Alors on continue de la porter. Alors c'est très mauvais de porter une misère seule. C'est très mauvais. J'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie des personnes qui m'ont dit, n'en pouvant plus du reste, j'ai gardé trop longtemps seule pour moi cette misère. Parce que je n'avais rencontré personne à qui je pouvais la dire. C'est terrible, parce qu'une misère qu'on a portée trop longtemps, vous voyez, on est habitué à cette misère. On s'accoutume à cette misère. Et alors, elle fait partie presque de notre être. Et à partir de ce moment-là, c'est tellement difficile de pouvoir la dépasser, de pouvoir la dire. La miséricorde consiste à connaître la misère de celui qui est proche de nous, la connaître amoureusement. Il faut aimer beaucoup celui qui est proche de nous. Il faut l'aimer beaucoup pour découvrir sa misère, pour qu'il puisse communiquer sa misère. Connaître la misère de l'autre, et puis prendre cette misère dans notre cœur. La miséricorde consiste à porter dans son cœur la misère de l'autre, comme si c'était notre propre misère. C'est le mystère de la compassion. On compatit. On est avec celui qui souffre. On porte avec lui. Et on porte tellement avec lui qu'au bout d'un certain temps, il y a une certaine espèce d'unité qui se fait. C'est ça, compatir. C'est pouvoir porter avec l'autre la même souffrance que lui. C'est jamais tout à fait la même, hein, c'est bien évident, puisque d'un côté, c'est lui qui la souffre en premier lieu, et donc il a souffert déjà depuis plus longtemps. L'autre, il est là pour aider. Il est là pour compatir. Il est là pour être relatif à celui qui souffre, porter la souffrance de l'autre. C'est une des choses les plus terribles quand on souffre, c'est d'être seul. Et de savoir qu'on est seul et que personne ne compatit, que personne ne compatit, que personne n'est là pour porter cette misère. Et puis il faut faire tout ce qu'on peut pour l'aider. Il y a trois moments dans la miséricorde. Et ces trois moments, nous les voyons dans le cœur de Jésus, nous les voyons dans le cœur de Marie. Et nous devons nous les avoir. Le mystère de la réconciliation, c'est le mystère de la miséricorde du Christ. Or, c'est justement le pardon qui est la miséricorde la plus parfaite qui soit. Pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, à quelqu'un qui nous a meurtris, à quelqu'un qui nous a fait mal, c'est la plus grande miséricorde que de lui pardonner, c'est-à-dire de considérer que le mal qu'il nous a fait, est porté par l'amour. Que le mal qu'il nous a fait est entièrement pardonné, on s'en sert pour aller plus loin. On veut l'aider. On sait que c'est pas bien ce qu'il a fait, que c'est lui le vrai misérable. On accepte de porter avec lui et pour lui. Et on fait que cette blessure qu'on a reçue de lui soit l'occasion d'être plus proche de lui, l'occasion d'entrer dans une intimité plus profonde avec lui. Mais la miséricorde la plus parfaite, hein, c'est le pardon. Parce que c'est la plus personnelle. Ça, c'est vrai, c'est la plus personnelle. La miséricorde n'est parfaitement personnelle que lorsqu'on pardonne, lorsqu'on a été atteint, blessé par quelqu'un. Et qu'on se sert de cette blessure pour aller plus loin dans son intimité. Alors que normalement, la blessure serait plutôt un obstacle, serait plutôt quelque chose qui nous éloignerait et qui nous permettrait de nous replier sur nous en disant « si c'est ça, c'est pas la peine de continuer ». On se sert de cette blessure pour l'aimer plus, pour aller plus loin dans son amour, plus proche de lui. Toutes les fautes qui regardent le Père regardent le Fils. Et quand Jésus porte l'iniquité du monde, il porte toutes les blessures qui l'ont atteint, qui ont atteint le Père, l'honneur du Père, la majesté du Père. Tout ce qui était blasphème, tout ce qui a atteint le Père, la vulnérabilité du cœur du Père. Et Jésus pardonne en portant cette blessure dans son cœur, en la faisant sienne, pleinement sienne. En portant la misère du pécheur et en considérant que cette misère, c'est la sienne. Et il fait tout. Redonner courage, va, ne pêche plus. Le pardon, c'est la plus grande des miséricordes, et c'est pour ça que le sacrement du pardon, c'est le sacrement de la miséricorde par excellence. On ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de la miséricorde. Il y a des miséricordes qui sont plus visibles, évidemment, que le pardon, mais le pardon, c'est la miséricorde la plus grande. C'est pour ça que c'est si beau quand on se pardonne. Quand après qu'il y a eu telle ou telle petite bagarre, telle ou telle petite difficulté, de se pardonner. Et prendre l'habitude de ne jamais se coucher sans pardonner. Sans pardonner à tous ceux qui ont pu nous blesser. Alors, je ne vous demande pas de mettre un petit mot, un petit billet de pardon, n'est-ce pas, vis-à-vis de tous ceux qui ont pu vous blesser pendant la journée. Mais au pied du lit, avant de s'endormir, dans notre prière du soir, on demande pardon. Si on n'a pas pu lui demander pardon, on demande pardon à Jésus et on pardonne. Puisqu'il nous pardonne dans la mesure où nous pardonnons. Nous pardonnons et nous demandons d'être pardonnés. Et nous commençons par pardonner à tous ceux qui nous ont blessés, sans le savoir. Et ça, ça redonne un élan de vie. Ça redonne quelque chose de très très beau. Parce que c'est un amour qui ne demande que grandir. Alors, l'amour se nourrit de la miséricorde et du pardon pour pouvoir aller plus loin. Et l'amour demande justement d'être victorieux de toutes les blessures et de toutes les brisures. Et l'amour est victorieux de toutes ces blessures et de toutes ces brisures dans la mesure même où l'amour pardonne. Et quand il pardonne, alors, il peut aller plus loin, il peut s'élancer plus loin. Jésus, c'est l'homme du pardon. Il est l'homme de la douleur, il est l'homme du pardon, il est l'homme de la miséricorde, comme fils bien-aimé du Père. Mais c'est dans son cœur d'homme qu'il pardonne, c'est dans son cœur d'homme qu'il fait la miséricorde, parce qu'il est tout proche de nous, et qu'il veut être tout proche de nous, et qu'il veut nous envelopper de sa miséricorde et de son pardon. Et Jésus veut que cette miséricorde qui s'est réalisée à la croix, de la manière si unique. Et il a fallu le bon larron pour que nous comprenions mieux cette miséricorde. Il a fallu que Jésus regarde son peuple en lui demandant pardon, en lui pardonnant. Il a fallu que Jésus porte le silence du Père. Vous n'êtes plus que pardon. Jésus à la croix pardonne et son geste de pardon demeure pour nous dans ce sacrement de la miséricorde et du pardon, dans ce sacrement de la réconciliation. Vous comprenez bien que si on n'avoue pas ses fautes, si on ne les reconnaît pas, si on n'est pas dans une attitude d'attente de la miséricorde, on ne peut pas recevoir la miséricorde. Parce qu'on ne reconnaît pas qu'on est quelqu'un qui ne peut pas s'en tirer tout seul. Parce qu'on ne reconnaît pas qu'on est dans un état de tiédeur, dans un état d'orgueil. On ne reconnaît pas qu'on est pécheur. Jésus ne peut exercer sa miséricorde que vis-à-vis de ceux qui lui demandent pardon. Et nous devons recevoir cette miséricorde du Christ, et directement. C'est pour ça que je crois que la meilleure préparation au sacrement de pénitence, c'est tous les soirs, avant de s'endormir, de demander pardon de toutes ses fautes à Jésus. C'est tous les soirs, avant de s'endormir, de recevoir le pardon du Christ. Il ne demande que cela, nous pardonner. Tous les soirs, comme on demande pardon à ses frères, on demande pardon à Jésus. Vivre mystiquement de ce pardon. Vivre mystiquement de cette réconciliation. Et de savoir que ce lien qu'on a avec Jésus, qu'on a avec son sacerdoce, nous sommes nés dans son sacerdoce, nous sommes portés par son sacerdoce, nous sommes nourris de son sacerdoce. Ce lien qui existe, qui est si fort dans la foi, si on l'actue tous les jours, lui demander ce pardon. Et si nous recevons ce pardon de Jésus, alors nous aurons soif du sacrement de pénitence. C'est impossible autrement. Mais c'est en vivant de ce pardon, je crois que c'est cela qui éveille le plus en nous la soif du sacrement de pénitence. C'est de comprendre cette miséricorde du Christ, l'expérimenter au plus intime de notre âme, dans ce lien personnel avec lui. Expérimenter ce pardon, Jésus. Expérimenter cette infinie miséricorde, infiniment douce, infiniment bonne. Comment Jésus nous prend plus encore dans son intimité chaque fois qu'il nous pardonne. Alors nous avons soif à ce moment-là de recevoir le sacrement de pénitence pour que ce pardon du Christ soit plus efficace. Pour que ce pardon du Christ nous marque davantage, pour que ce pardon du Christ prenne toute sa force en nous, malgré notre peu d'amour. Si notre amour était suffisant, nous n'aurions pas besoin des sacrements. Mais c'est parce que notre amour n'est pas suffisant, et nous le ressentons spécialement quand nous demandons pardon à Jésus. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, nous sentons davantage le besoin de ce sacrement de pénitence, de ce sacrement de réconciliation, parce que nous saisissons mieux que la miséricorde du Christ est infinie, qu'elle nous est donnée, qu'elle est à nous, mais qu'elle ne peut se donner que dans la mesure où nous lui demandons. Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.